Bonjour à tous. Alors que l'équipe de France affronte demain l'Écosse pour son deuxième match du tournoi des Six Nations, enquête aujourd'hui sur le dopage dans le rugby. Les voyants sont en effet au rouge, alors que dans le même temps, nombreux sont les dirigeants qui semblent fermer les yeux. Vous allez nous expliquer ça, Sylvain Tronchet. Bonjour.
Bonjour, Jacques.
Et puis nous recevrons Pierre Abramovici. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes la seule personne autorisée à consulter les archives de Monaco. Et alors que le Rocher s'apprête à renouveler son parlement, eh bien vous nous expliquerez pourquoi l'immobilier y est devenu complètement fou.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Je vous rappelle que le cyclisme dans les années 90, si on les avait laissés continuer dans la même logique, aujourd'hui on aurait des étapes du Tour de France qui font 350 km tous les jours, et ils nous expliqueraient que c'est totalement normal et naturel que les cyclistes soient capables de produire un tel effort. Aujourd'hui, le rugby, on est exactement dans la même approche que celle du cyclisme dans les années 90.
Voilà, l'homme que vous venez d'entendre, c'est Laurent Bénézèche, un ancien joueur de l'équipe de France de rugby, qui en mai 2013 tire le signal d'alarme devant une commission d'enquête du Sénat. Il explique que son sport est menacé par le dopage, tout comme donc l'avait été le cyclisme à la fin des années 90. Alors le parallèle peut peut-être sembler excessif. Et pourtant, eh bien, on va voir qu'il n'est pas dénué de tout fondement. Mais pour commencer, Sylvain Tronchet, déjà dites-nous, qu'est-ce qui rend Laurent Bénézèche aussi pessimiste ?
Eh bien, tout simplement déjà un constat qui pose question. Le rugby n'est plus aujourd'hui ce qu'il était. Ils sont nombreux à le dire, comme Jean Chazal. Il est médecin et président de la commission médicale du club de Clermont-Ferrand, l'un des meilleurs clubs français.
Ce sport est devenu un sport de collision, un sport de destruction, alors qu'au départ, c'était un sport d'évitement, un jeu de stratégie. Là, il n'y a plus de stratégie. On lance quelqu'un à 30-35 km/h et il casse tout, et il marque, et il gagne.
Et le résultat, c'est que le rugby nécessite aujourd'hui beaucoup plus de puissance qu'avant.
Absolument. Et il y a des études scientifiques qui le montrent de façon incontestable. Je suis allé voir un chercheur, il s'appelle Adrien Sedeau. Il travaille à l'IRMES, un institut spécialisé dans le sport. Et les chiffres qu'il m'a livrés sont très clairs.
De nombreuses études ont montré une augmentation conséquente du nombre de rucks. Donc le ruck, c'est lorsqu'il y a plaqueur plaqué et que ça passe au sol. Donc ça veut dire qu'il y a une augmentation du nombre de contacts. Il y a Norton et Holtz, notamment des chercheurs américains, qui parlent de course à l'armement. Et donc par rapport aux contraintes de l'activité, vu qu'on s'oriente plus vers un sport d'affrontement que d'évitement, les équipes s'arment en conséquence.
Et s'armer, Sylvain, ça veut dire quoi précisément ?
Eh bien, pour les joueurs, ça veut dire prendre du muscle. Entre chaque Coupe du Monde depuis 1987, les rugbymen pèsent en moyenne 1,5 kg de plus.
Ah
c'est,
ouais.
C'est énorme, c'est deux fois plus que la population normale. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir un joueur de 130, voire 140 kg sur un terrain. La prise de masse, comme on dit, est devenue quasi obsessionnelle chez les joueurs.
Et cette course au poids, elle pose évidemment la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour y arriver.
Exactement, et c'est ce que m'a raconté Benoît Guyot. C'est un jeune retraité du rugby pro, il a 29 ans, et il vient de raccrocher après 8 saisons de haut niveau.
Quand je suis arrivé à Biarritz, je faisais 91-92 kilos et j'ai pris 10 kilos en une saison. Je faisais deux séances de musculation par jour, je mangeais presque à vomir, quoi. Je me remplissais, je me gavais, quoi. J'avais l'impression d'être une noix à un moment donné. Mais j'ai pris ces 10 kilos et je pense que ma carrière a été rendue possible par cette prise de poids. Mais ce qui est très particulier, c'est que j'étais accusé de dopage. Sauf que moi, je savais très bien que je ne m'étais pas dopé.
Est-ce qu'on est dans une ère du soupçon aujourd'hui dans le rugby ?
Bien sûr, bien sûr. On peut avoir des doutes. Mais le dopage, j'en sais rien, parce qu'il n'y a pas de gens qui sont pris en étant dopés, ou très peu. Donc tant qu'il n'y aura pas ça, on ne pourra rien dire.
Ouais, le dopage, j'en sais rien, dit-il, donc lui explique qu'il ne s'est pas dopé. Maintenant, nous mettons les pieds dans le plat, Sylvain. Est-ce qu'on a, oui ou non, des éléments qui permettent d'affirmer qu'il y a du dopage dans le rugby ?
Alors, bon, on va le dire une bonne fois pour toutes, il est très probable que de très nombreux joueurs n'aient jamais pris de produits dopants. Il ne s'agit pas de dire que tous les joueurs de rugby se dopent. Mais il y a de nombreux signes qui montrent que l'usage de produits interdits existe. Retournons voir Adrien Sedeau, le chercheur. Il m'a parlé d'une étude sur les rugbymen néo-zélandais qui ont soudainement grossi à l'arrivée du professionnalisme en 1995.
Chez les Blacks, ils sont passés en 95 à un poids moyen des arrières aux alentours de 85 kg. 4 ans plus tard, à 95 kg, donc c'est presque 10 kg sur une courte période de temps. Et pour les avants, ils étaient aux alentours de 100 kg en 95 et se retrouvent 2-3 ans après à près de 110 kg. Donc c'est des prises très massives sur des laps de temps courts qui sont similaires à ce qu'on avait pu constater sur les sports US. C'était la période où il y avait les plus grandes prises de masse dans le sport américain. Donc c'était certes dû à l'évolution de la population générale, c'est un facteur, tout comme la préparation physique, mais un rapport qui est arrivé un peu plus tard, le rapport dit Mitchell, a baptisé ça lui-même d'ère des stéroïdes, donc qui aurait favorisé cette prise de masse sur cette période.
Ah oui, donc cette augmentation de la masse musculaire, elle pourrait aussi être due à l'utilisation de stéroïdes ?
Oui, les stéroïdes anabolisants, hein, des médicaments qui permettent de prendre du muscle, très efficaces, bien connus. Ils ont été très répandus dans certains pays de l'hémisphère sud. C'est ce que m'a raconté le sénateur Jean-Jacques Lozach. Il était le rapporteur de la commission d'enquête sur le dopage en 2013 et il avait notamment recueilli le témoignage de l'ancien capitaine de l'équipe d'Argentine, Felipe Contepomi.
Contepomi, lui, il s'est pas caché de dire que les anabolisants en Argentine, dans les années 80-90, c'était une pratique très très répandue, quoi. Il l'a reconnu. Donc j'ai du mal à penser qu'on passe comme ça, en quelques années, d'une pratique très répandue à aucune utilisation, aucun recours, quoi.
Ouais, donc ce qu'on entend derrière ça, c'est que des produits dopants, on pourrait toujours en prendre à l'étranger. En tout cas, maintenant, chez nous, en France, est-ce qu'on le fait aussi, Sylvain ?
Alors, pour tenter de répondre à cette question, je suis allé voir celui qui a été responsable de la lutte contre le dopage pendant près de 20 ans à la Fédération française de rugby, jusqu'à l'an dernier. Christian Bagat est un ancien rugbyman, il est médecin, dirigeant de club, et lui n'y croit pas, du moins il ne croit pas à un dopage organisé au sein même des clubs.
Il y a des gens qui, de temps en temps, dévient, mais comme nous en avons dans la vie de tous les jours, dans différents domaines. Mais il n'y a pas de dopage organisé, vraiment. Même si, à un moment donné, nous avons pu avoir un soupçon sur une équipe à un moment donné.
Mais on sait tous à quel club vous faites référence.
Ah ben, j'en sais rien, moi. Je cite jamais personne.
Lui ne cite personne, mais est-ce qu'on sait de qui il s'agit, Sylvain ?
Alors, Christian Bagat veut certainement parler du club de Brive, champion d'Europe en 1997, et qui avait effectivement un médecin aux pratiques douteuses. Cet homme a été condamné, d'ailleurs, à 1 an d'interdiction de soins par le Conseil de l'Ordre pour des prescriptions jugées abusives. L'ancien international Laurent Bénézèche, dans son livre « Rugby, où sont tes valeurs ?», a d'ailleurs publié une ordonnance de ce médecin destinée à un jeune joueur de Brive.
Dans mon ouvrage, je montre une prescription médicale où on a des produits qui sont détournés de leur utilisation originelle, puisque par exemple, on a des produits qui servent à nourrir des patients en phase terminale, des patients anémiés. On va détourner ce produit-là pour essayer de faire que des sportifs qui s'entraînent beaucoup puissent démultiplier l'équation qui va leur permettre de fabriquer plus de muscles grâce à cet entraînement.
Et c'est ce type de prescription qui fait que ce médecin a été sanctionné, mais aucun joueur de Brive n'a jamais été contrôlé positif.
Ouais, dont acte. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres médecins de club impliqués dans le même type d'affaires ?
À ma connaissance, non. Mais il existe une autre catégorie de personnes qui gravitent dans le milieu du rugby, des préparateurs physiques indépendants. C'est une vraie spécialité de ce sport, m'a expliqué Damien Reussiot, le directeur des contrôles à l'Agence française de lutte contre le dopage.
Ça, c'est vraiment une spécificité culturelle du rugby que l'on connaît. L'appel à des préparateurs physiques qui sont indépendants des clubs et qui gravitent dans ce milieu, on le sait. D'ailleurs, j'ai pas connaissance de préparateurs physiques ou techniques qui gravitent dans d'autres milieux sportifs et qui sont itinérants. C'est pas du tout une problématique nouvelle, puisque certains ont été identifiés, certains ont même été condamnés par la justice pour avoir trafiqué et fourni des produits dopants à des rugbymen professionnels. Mais c'est une pratique qui perdure. Tous ne sont évidemment pas mal intentionnés. C'est des cas marginaux. des individus qui sont marginaux, mais que nous avons identifiés.
Ouais, des individus qui gravitent donc autour des clubs et qui approchent les joueurs pour leur proposer leurs services.
Oui, en leur tenant des discours plutôt prometteurs. Hein. C'est ce qu'a raconté, il y a quelques années, dans une chronique sur un site internet, un joueur écossais, Paul Dirlov. Il a joué plusieurs saisons en France. Nous avons fait lire son récit par un journaliste.
Il y a quelques années, un préparateur physique m'a expliqué qu'une cure de stéroïdes de 8 semaines pourrait changer ma carrière. D'après lui, je pouvais espérer conserver sur la durée 60% de mes gains en performance. En clair, si je prenais 5 kg de muscle, je pourrais espérer en garder 3. Et si je gagnais une seconde aux 100 mètres, même si j'arrêtais les stéroïdes, je courrais toujours 6 dixièmes plus vite. Ça n'a l'air de rien, mais ce petit écart peut faire la différence entre un joueur ordinaire et un millionnaire du rugby.
Et dans cette chronique, Paul Dirlov précise qu'il n'a pas donné suite à cette proposition.
Ouais, une proposition formulée par un préparateur physique, donc, dont il ne donne pas le nom. Mais est-ce qu'on en connaît, nous, de ces préparateurs ?
Eh bien, au moins un, qui était d'ailleurs assez connu dans le rugby, qui s'appelait Alain Camborde. Cet homme, qui est décédé dans un accident de la route, suivait 150 joueurs professionnels à qui il prodiguait conseils et produits légaux, affirmait-il, mais un jour, les gendarmes ont trouvé chez lui des cachets de clambutérol, un stéroïde anabolisant.
Ouais, ce qui est quand même très embêtant. Sauf, il faut le préciser, Sylvain, qu'ils n'ont jamais pu établir que ces produits avaient été fournis à des joueurs.
C'est vrai, il a été condamné à 3 mois de prison avec sursis, mais seulement pour exercice illégal de la pharmacie et importation de marchandises prohibées. Rien n'a pu le relier au dopage de sportifs professionnels. Mais ce que m'a expliqué l'ancien directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage, Jean-Pierre Verdi, c'est qu'il en était clairement soupçonné et qu'il a probablement été sauvé par un micmac entre services de police.
On avait travaillé dessus avec les douanes et la gendarmerie, mais un énorme gâchis parce que les deux n'ont pas collaboré et travaillé ensemble, donc il y a eu un échec dans le résultat. Alors qu'on avait déjà réussi des opérations en collaborant, en travaillant intelligemment entre toutes ces institutions, mais là il y a eu un raté. Un beau raté, oui.
Un beau raté, mais pourquoi un beau raté ?
Eh bien parce que cette affaire s'est déroulée dans un contexte plutôt troublant. Vers 2006-2007, les 150 joueurs professionnels suivis par Alain Camborde ont été contrôlés avec des taux d'hormones thyroïdiennes très anormaux, ce qui peut signifier qu'ils ont pris des produits dopants. Alors ce n'est pas une preuve, mais le nombre interpelle d'autant plus qu'il y avait des joueurs de l'équipe de France parmi eux. Le sélectionneur Bernard Laporte a même dû s'expliquer sur cet épisode quand lui aussi est venu témoigner devant la commission d'enquête sénatoriale sur le dopage.
C'est des joueurs que j'avais en équipe de France, moi, à l'époque, qui allaient voir un préparateur physique qui était autre que le préparateur physique de leur club. Mais quand je parlais avec eux, j'ai dit, écoutez, il y a des suspicions quand même, etc., etc. Et eux étaient catégoriques en me disant, mais Bernard, il n'y a aucune suspicion. Nous, on a confiance en ce mec parce qu'il nous fait faire des exercices que notre préparateur physique ne nous fait pas faire. Et nous, on se sent mieux quand on fait ces exercices-là, etc., etc. Alors, je sais que ça a engendré plein de doutes. Et bien sûr que je dis aux joueurs, attention, vous êtes comme moi, vous n'êtes pas connaisseur. Prenez des précautions quand même. N'y allez pas les yeux. Mais bon, ça a été que des rumeurs. Et sincèrement, derrière, il n'y a rien eu.
Derrière, il n'y a rien eu. C'est bien vrai, ça ?
Oui, c'est vrai. Personne n'a été formellement mis en cause pour dopage. Mais Christian Bagat, vous savez, l'homme qui était à la tête de la lutte contre le dopage à la Fédération. Ouais. Christian Bagat m'a raconté quelque chose. Il est arrivé, rarement, mais c'est arrivé que des joueurs soient écartés de l'équipe de France.
Écartés ? Mais pourquoi ça, écartés ?
Eh bien, il m'a raconté que parfois, étrangement, des joueurs n'ont pas été sélectionnés, alors que pourtant, leur place était incontestable. Et il m'a expliqué pourquoi.
Quand un joueur devient très très bon, qu'est-ce qui se passe ? Il vient en équipe de France. On multiplie les analyses en équipe de France. On voit très très vite des choses. Et s'il y a des choses qui ne font, ils ne sont pas sélectionnés. Alors ça peut donner des aberrations des fois, mais ils ne sont pas sélectionnés. Parce qu'il y a quelque chose qui nous fait douter. Voilà, c'est arrivé. Voilà. Bah, on ne l'a jamais crié, on ne l'a jamais dit, mais voilà. C'est arrivé. Et c'était comme par hasard avec un environnement, et parce qu'ils avaient rencontré quelqu'un qui leur avait dit que c'était rien, et souvent ils sont surpris, même en tant que professionnels.
Mais ils sont surpris de quoi, Sylvain ?
Bien de découvrir qu'on leur a fourni des produits dopants, ce qui explique leurs paramètres anormaux. Pas des contrôles positifs, à proprement parler, mais des analyses qui laissent peu de place au doute. D'ailleurs, À l'Agence française de lutte contre le dopage, vers 2009-2010, on a fait ce qu'on appelait des profilages sanguins. Et à l'époque, Jean-Pierre Verdy, le directeur des contrôles, avait eu quelques surprises.
Concernant le rugby, on avait vu d'énormes variations pendant les périodes de trêve. Donc ça pouvait signifier que ou les gens récupéraient d'une manière astronomique en quelques jours ou qu'ils utilisaient des produits pour récupérer d'une manière exponentielle. Les scientifiques parlaient ou d'autotransfusion ou de prise de PO, de microdose de PO. Donc c'était l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre.
Attendez, il parle bien de PO là, hein, c'est-à-dire des produits qu'on utilise essentiellement dans le cyclisme.
Oui, mais ça n'étonne pas les spécialistes de la lutte contre le dopage. Hein. Le PO a probablement dépassé les frontières des sports d'endurance. On sait par exemple qu'elle a été utilisée dans le football à la Juventus de Turin dans les années 90.
Mais si c'est le cas, Sylvain, alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas de contrôle positif?
Eh bien, tout simplement parce qu'on sait aujourd'hui comment déjouer ces contrôles. Et ça, pour Jean-Pierre Verdy, c'est un fait établi.
Il y a un scientifique, Pierre Salé, qui a fait une étude en utilisant des microdoses sur des sportifs et en faisant des prélèvements régulièrement. Les sportifs ont amélioré leur performance et les analyses ont prouvé qu'ils n'étaient pas positifs. Donc, ça veut dire que c'est possible si c'est fait intelligemment.
Et en plus, ce qu'il faut dire, c'est que la France consacre de moins en moins de moyens à la lutte contre le dopage. Le nombre de contrôles est en baisse ces dernières années, ce que déplorent tous les acteurs du système, comme Christian Bagat.
Le problème, c'est qu'on nous demande de nager avec un pied attaché et un boulet de plomb sur une main. Donc, il nous est difficile de nager.
Vous vous êtes senti démuni, parfois, vous, justement ?
Oui, mais souvent.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Alors, on a vu que les joueurs de rugby professionnels ont gagné en masse musculaire et que cette prise de poids pose de vraies questions. On a vu qu'au détour de quelques affaires, il semble bien que le dopage existe dans le rugby. Alors maintenant, Sylvain Tronchet, on va voir qu'au-delà des produits interdits que sont les stéroïdes ou le PO, il existe d'autres produits qui, eux, sont autorisés mais qui posent tout aussi problème.
À commencer par les corticoïdes, hein, des médicaments qu'on peut tous être amenés à prendre. Ce sont des anti-inflammatoires prescrits pour de nombreuses pathologies. Mais pour les sportifs, et notamment les rugbymen, ils peuvent se révéler très utiles. L'ancien international Laurent Bénézèche l'a réalisé quand on lui en a prescrit.
Suite à une opération à un œil, donc j'ai eu un traitement pour justement lutter contre la douleur. Donc je me suis entraîné en continuant le traitement à base de corticoïdes. J'ai eu cette sensation d'euphorie physique qui faisait qu'il n'y a plus de barrière de fatigue, il n'y a plus de ressenti de douleur, et j'avais la capacité de me surentraîner. Les corticoïdes, c'est l'hormone du courage.
Ah oui, les corticoïdes donneraient du courage. Et c'est pas considéré comme un produit dopant?
Eh bien, oui et non. Disons pour faire simple hein, qu'ils sont autorisés à l'entraînement, mais qu'en revanche, ils sont interdits le jour de la compétition.
Mais si on en trouve quand même dans les urines d'un joueur le jour d'un match, comment est-ce qu'on peut savoir s'il les a pas pris avant?
Eh bien, c'est tout le problème. Et c'est ce qui a provoqué un beau pataquès après la finale du Top 14 en 2016. On a appris que 3 joueurs du champion de France, le Racing, avaient été contrôlés positifs aux corticoïdes. La star du championnat, Dan Carter, avait un taux qui dépassait de presque 3 fois le seuil autorisé.
Et ils n'ont pas été suspendus?
Non, blanchis, parce que le club a pu prouver qu'on leur avait fait une infiltration à l'entraînement, ce qui est autorisé. Mais l'explication a fait tousser pas mal de monde, notamment Jean Chazal, le président de la commission médicale du club de Clermont-Ferrand.
Une infiltration de corticoïdes dans un ligament, le taux, le passage sanguin est très faible. Ça ne booste pas le joueur, ça traite son articulation, mais ça ne le booste pas sur le plan général. Vous voyez la différence. S'il y a un taux dans les urines important, à 2 ou 3 fois la norme tolérée, c'est que ces corticoïdes sont passés dans le sang et finalement ont boosté le joueur. Je veux rester politiquement correct, je n'accuse personne, mais si vous voulez, quand vous roulez sur l'autoroute, c'est limité à 130, vous roulez à 130. Si vous roulez à 150, vous faites arrêter, on vous dit, bah écoutez, vous êtes à l'amende. Bon, bah si vous avez un taux de corticoïdes à 2 ou 3 fois la dose tolérée dans les urines, eh ben vous êtes pénalisé.
Oui, il est assez explicite là, hein, le docteur Chazal. Lui, il ne croit pas à la thèse officielle.
Oui, mais encore une fois, le règlement, c'est le règlement. Hein. Et du côté de la fédération, Christian Bagat explique qu'il n'avait pas d'autre choix que de l'appliquer.
Les règles sont les règles et nous, nous n'avons qu'à faire appliquer des règles. Je suis convaincu que les corticoïdes utilisés sont des choses qui ne doivent pas se faire. On ne doit pas jouer, etc. Sauf que les règles permettent. Dans certaines circonstances, dans certaines choses, ce qui était le cas de Carter, pour ne parler que d'un homme et d'autres personnes, hein, parce qu'il n'est pas tout seul. Et c'est dans les règles, donc on ne peut pas empêcher quelqu'un de suivre les règles. Sinon, il faut modifier les règles.
Et pour l'instant, ça n'est pas à l'ordre du jour. Bon, cela dit, Sylvain, il y a autre chose. On utiliserait aussi dans le rugby un produit qu'on peut là qualifier clairement de stupéfiant.
Effectivement, parce que là, on parle de cocaïne. Alors attention, hein, l'usage de la cocaïne est effectivement interdit par le code pénal. En revanche, le règlement de l'Agence mondiale antidopage précise qu'elle est prohibée, mais seulement en compétition. Il ne dit rien sur les entraînements. Autrement dit, il existe une faille réglementaire qui fait que si vous êtes positif à la cocaïne à l'entraînement, vous n'êtes pas sanctionné par les autorités sportives.
Attendez, c'est complètement fou là ce que vous êtes en train de nous raconter.
Oui, d'autant plus qu'il se raconte que les associations cocaïne-corticoïdes seraient utilisées par certains joueurs pour pouvoir supporter de grosses charges d'entraînement, surtout en début de semaine. On appelle ça le dopage LMM. C'est ce que m'a raconté l'ancien directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage, Jean-Pierre Verdi.
LMM, c'est lundi, mardi, mercredi, où la cocaïne s'est utilisée pour effacer, estomper les effets des chocs du week-end précédent. Comme la cocaïne reste 48 heures maximum, elle est plus détectable après, ben, ils peuvent jouer le samedi et le dimanche. Et comme ce sont des produits qui sont autorisés à l'entraînement, ben, c'est utilisé.
Parce que la cocaïne est autorisée.
Elle est autorisée, oui. Malheureusement, elle est autorisée à l'entraînement.
Oui, autorisée ou plutôt pas interdite, hein, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, il faut être précis là. Mais c'est assez incroyable quand même ce que nous raconte Jean-Pierre Verdi. Et on n'est pas au bout de nos peines, Sylvain, parce qu'il existe encore d'autres produits, en apparence bien plus anodins, mais qui peuvent aussi réserver de drôles de surprises.
Oui, ce sont les compléments alimentaires, hein. En fait, c'est de la protéine hyper concentrée qui vous permet d'avaler sous forme de poudre à diluer dans un verre l'équivalent de 3 œufs et 2 steaks. On les trouve très facilement sur Internet. Ils étaient très utilisés dans le milieu des culturistes au départ, mais ils ont maintenant conquis les vestiaires du rugby.
Et où est le problème si c'est légal ?
Eh bien, le problème, c'est que lorsqu'ils sont efficaces, c'est très souvent parce qu'ils sont pollués. C'est la mésaventure qui est arrivée à un joueur de Fédéral 2, la 4e division, Alexis, qui a accepté de me raconter son histoire.
C'était un match où je ressentais une certaine fatigue, entre guillemets. Donc pour la première fois de ma vie, je prends un complément alimentaire, donc type protéine. Et puis donc il se déroule une demi-heure, trois quarts d'heure, entre le temps où j'ingère les protéines et le moment où j'ai le contrôle urinaire. Et puis ben moi, donc un mois après, je reçois une lettre recommandée attestant que j'avais été contrôlé positif à un stimulant. Moi, j'ai l'impression que le ciel m'était tombé sur la tête. Donc à la sortie de ça, eh bien, j'ai été suspendu 6 mois.
Suspendu 6 mois, mais qu'est-ce qu'il y avait de si étrange dans ces produits ?
Eh bien, des stimulants, hein, effectivement. C'est une pratique assez courante, hein, d'en mettre dans des compléments alimentaires fabriqués à l'étranger sans que cela soit inscrit sur l'étiquette. Et c'est pour cela que l'Agence de sécurité sanitaire a lancé une alerte sur la consommation à haute dose de ces produits, qu'on dit aussi adultérés, hein, c'est-à-dire trafiqués. Écoutez un extrait du rapport de l'agence lu par une journaliste.
La consommation de certains compléments alimentaires adultérés fait courir des risques pour la santé. Certains ingrédients des compléments visant le développement musculaire ou la diminution de la masse grasse causent des effets indésirables parfois graves, principalement cardiovasculaires, neuropsychiatriques, hépatiques et rénaux.
Ah oui, rien que ça. C'est plutôt inquiétant, non ?
Oui, c'est grave, hein. L'ANSES a d'ailleurs déjà pu relier plusieurs cas de pathologie avec la consommation de ces produits. Mais ce n'est pas tout. Pour certains scientifiques, prendre ce genre de complément, même réglementaire, est un premier pas vers le dopage. Écoutez l'avis d'un spécialiste du sujet, le professeur Xavier Bigard, conseiller scientifique de l'Agence française de lutte contre le dopage.
Ce que l'on a établi maintenant de manière très formelle depuis quelques années, c'est la relation qui peut exister entre la quantité de compléments alimentaires que l'on consomme, leur diversité, et puis l'ouverture vers des substances dopantes, c'est-à-dire le risque à un moment donné de franchir la ligne jaune et de consommer des substances dopantes interdites donc pour les sportifs. Donc il y a une relation entre ces différents facteurs qui fait que il faut absolument interdire toute consommation de compléments alimentaires chez les jeunes et les ados, donc dans les centres de formation.
Voilà. Et pourtant, des compléments alimentaires, on en consomme dans tous les centres de formation de jeunes rugbymen aujourd'hui, ce qui permet de s'inquiéter, hein, parce que cela montre qu'au niveau de l'encadrement du rugby français, on n'a pas forcément pris la mesure du problème auquel on est aujourd'hui confronté.
Eh bien, merci de nous avoir ouvert les yeux, à nous, Sylvain Tronchet. Je précise que votre enquête, on peut la réécouter ou la podcaster sur franceinter.fr ou sur l'appli France Inter. Vous pouvez également nous faire part de vos commentaires, comme chaque semaine, sur la page Facebook de Secrets d'Info ou sur Twitter, Investigation RF. Allez, restez avec nous. Où trouve-t-on des appartements à 100 000 euros le mètre carré à Monaco? Et on vous explique pourquoi dans quelques instants. En douceur, c'était The Deconstruction, un avant-goût du prochain album du groupe de Los Angeles qui s'appelle Hills et dont la sortie est prévue pour le 6 avril prochain.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Alors nous recevons maintenant Pierre Abramovici, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes né à Monaco.
Ouais.
Vous êtes le seul Français habilité à consulter les archives de la principauté.
En fait, même le seul tout seul.
Le seul tout seul. Et alors que les électeurs monégasques vont renouveler leur parlement demain, on va essayer avec vous de comprendre un peu comment fonctionne cette petite monarchie. Alors, On a coutume de dire que Monaco, c'est un paradis fiscal, on va commencer par là. Pourtant, aujourd'hui, quand on est un étranger, on n'a pas vraiment d'intérêt à y planquer ou blanchir son argent, comme on pourrait le faire aux Bermudes ou aux Caïmans. Ça a bougé hein, de ce côté-là.
Bah, surtout, Monaco, techniquement, n'est plus un paradis fiscal. Il l'a été. Sauf que depuis le début des années 2000, il y a eu un phénomène qui était particulier. D'une part, Monaco a été dénoncé comme paradis fiscal, notamment à l'OCDE.
Et OCDE, FMI,
voilà,
Conseil de l'Europe.
Tout à fait, elle s'est retrouvée sur ce qu'on appelle la liste noire. Alors, laquelle liste noire, évidemment, posait un problème, c'est qu'en substance, ça veut dire que je ne collabore pas avec les autorités des autres pays, je laisse des sociétés s'installer sous couvert chez moi, je ne participe pas quand tout d'un coup ces sociétés sont dénoncées à quelque enquête que ce soit. Bref, c'était un blocage un peu similaire à celui de la Suisse.
Oui, il y avait un rapport parlementaire et Arnaud Montebourg était monté au créneau là-dessus qui parlait de législation qui garantit l'anonymat des transactions, d'un casino sans contrôle, d'une coopération administrative et judiciaire internationale défaillante. Ça, c'était les années 2000.
Voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, d'une part, ce rapport a provoqué la colère du prince de l'époque, qui était vieillissant et qui allait mourir pas très longtemps après, mais qui a lancé le mouvement. C'est son fils, donc l'actuel prince souverain, qui effectivement a suivi et a continué le mouvement. En substance, d'abord, régler cette histoire, c'est-à-dire participer aux instances internationales, accepter de participer à la collaboration policière sur la question. Donc, ils ont créé l'équivalent de TRACFIN chez nous, ça s'appelle SECFIN. Aujourd'hui, si j'ouvre un compte en banque en tant qu'étranger à Monaco, SECFIN, par parenthèse, TRACFIN, parce qu'ils collaborent ensemble, le sait. Donc Bercy sait exactement ce qui se passe à Monaco au centime près. Et par-dessus le marché, si je veux ouvrir un compte avec des sous en liquide, au-delà de 8000 euros, en substance, on m'interdit d'ouvrir le compte. Voilà. Deuxième point, il y a des pays comme la France, dans lesquels depuis 1963, depuis des accords communs entre les deux pays, historiquement, les citoyens français n'ont aucun avantage particulier. C'est-à-dire qu'ils payent des impôts, les entreprises payent des taxes, les contacts entre Bercy,
le lapsus.
Oui, c'est parce qu'en ce moment, j'ai écrit un livre sur Vichy.
Même pas révélateur, hein, non, il vaut mieux pas d'ailleurs.
je suis sur Vichy en ce moment. Mmh. Donc, le contact entre Bercy et Monaco est permanent. Il y a des bureaux du fisc français sur place.
Donc, Monaco est une annexe de la France.
C'est une annexe de la France pour les citoyens français, au même titre que dans n'importe quel département. Pour ce qui concerne les Italiens et quelques autres pays, il y a des accords aussi. Et d'ailleurs, on dit que les Italiens vont payer des impôts bientôt. Donc, globalement, la principauté n'est plus un paradis fiscal pour les citoyens, pour l'évasion au fisc. Bien sûr, si je suis un citoyen chinois ou russe, je peux aller m'installer pour ne pas payer. Mais pour ça, il faut y vivre pendant 6 mois et être une sorte de résident permanent. Sinon,
Et là, en revanche, c'est un havre fiscal exceptionnel, puisqu'il n'y a pas d'impôt sur les revenus. Il n'y a même pas d'impôt sur les bénéfices si vous réalisez plus de 75% de votre chiffre d'affaires à Monaco.
Voilà, mais
c'est quand même.
Oui, incroyable. Mais les pays se réduisent, c'est-à-dire progressivement les pays se réduisent. Et surtout, si on fait ça pour des raisons de pure fraude fiscale, maintenant il y a coopération. En revanche, il y a ce qu'ils appellent l'optimisation fiscale. Alors c'est pas moral, mais c'est pratiqué, je le rappelle, en Europe par le premier pays fondateur de l'Union européenne, de Luxembourg, par un pays qui s'est installé plus tard dans l'Union européenne, l'Irlande. Bref, l'optimisation fiscale existe. Aussi longtemps que l'optimisation n'est pas sanctionnée du point de vue juridique par personne, et qu'aucun État ne le souhaite, et qu'il y a en fait concurrence entre les États pour aller au plus facile et au plus, comment dirais-je, acceptable pour les investisseurs chez eux, on n'y est pas.
Mais on peut penser aussi qu'ils profitent de la France, puisque le système de la TVA leur est quand même très avantageux.
Mais ils ne profitent pas de la France, c'est un accord international.
Alors parlons de l'accord de 63, justement.
L'accord de 63 est la conclusion d'une série d'accords, qui sont des accords douaniers à la base. À partir du moment où la principauté est un État qui dépend très très directement de la France. Et ça a été une sorte de protectorat pendant des décennies. Dès lors qu'il y a un accord douanier, ça veut dire que Monaco prélève des taxes sur les produits qui rentrent chez elle ou qui sont fabriqués par elle, et on lui rétrocède une part de cet argent prélevé au prorata d'un certain nombre de critères.
Sauf que ce prorata est très avantageux pour les monégasques.
Ce prorata est très avantageux pour les monégasques, mais ce depuis les années 50. Et quand il y a eu la crise franco-monégasque, ce qu'on a appelé entre nous la guéguerre ou la grave crise franco-monégasque entre le général de Gaulle et le prince Rainier, les accords qui ont suivi ont d'une part donc totalement verrouillé les Français, mais de l'autre côté ont pérennisé ce système dit du compte de partage, qui a fait que, basé sur la TVA, qui à l'époque était pour un ou deux ou trois produits, enfin presque rien, en 1967 s'est trouvé étendu à tous les produits, avec en plus des TVA très élevés, jusqu'à 33% pour certaines. Le prince Rainier, qui était très 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 malin et qui était un authentique chef d'entreprise, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait créer des entreprises à 33%. Ce qui lui a permis d'obtenir des taux de TVA très élevés et donc un compte de partage très très favorable. Ce qui fait que quand Édouard Balladur est devenu ministre des Finances et qu'il a voulu remettre à plat le système, on lui a répondu « bah certes, mais dans ce cas-là, il faut déclarer la guerre à la principauté. C'est un accord entre deux États. »
Et pourquoi on ne le fait pas ?
Parce qu'il faut faire de la guerre à la principauté.
Non, mais sans parler de la guerre. Enfin, je veux dire, ça s'appelle un rapport de force. On n'est plus dans
la
guerre.
Mais il n'y a plus de rapport de force de la France. Le problème de la France.
Mais la question, c'est pourquoi la France tolère finalement de donner plus de TVA que nécessaire à Monaco, qui est quand même considéré comme le pays le plus riche du monde, rappelons-le, au détriment finalement de la richesse de la France.
Parce que la France ne peut pas faire autrement. C'est un accord international. Pour rompre cet accord international, il faut lancer des nouvelles négociations. Et il n'est pas question pour le moment, je pense, de négocier sur ce point-là.
Alors, Pierre Abramovici, un mot aussi de l'immobilier qui atteint des sommets à Monaco.
Alors, on atteint actuellement des sommes qui vont de 35 à 100 000 euros le mètre carré.
100 000 euros le mètre carré.
Ce qui est totalement invraisemblable.
Vous n'êtes pas trompé, là.
Non, du tout. Et ces chiffres viennent simplement de ce qu'il y a une clientèle prête à acheter ces appartements pour une raison précise, unique. Je m'installe à Monaco pour les pays qui sont encore possiblement fiscalement déduits. Je ne paye pas d'impôt sur le revenu, ni d'impôt sur mes sociétés si j'en crée sur place. Et dans ces conditions, je paye.
Il suffit d'être résident.
Pour certains pays. Ça ne marche pas pour tous, comme je disais. Pas les États-Unis, pas la France, pas d'autres
ça
pays.
Ça aussi qui est fou, c'est qu'on n'est pas logé à la même enseigne selon les nationalités. C'est un
du
peu
tout.
Bizarre. Ça.
Si demain, les Italiens, par exemple, payent des impôts à Monaco, comme c'est prévu, semble-t-il, comme les Français, les Italiens richissimes s'en iront. Ils ne paieront plus les sommes qu'ils payent pour pouvoir être résidents à Monaco. Le problème de la principauté sur l'immobilier...
Qui peut se payer un appartement à Monaco ?
Actuellement, les Russes. Actuellement, c'est la communauté russe qui grossit parce qu'elle a les moyens financiers de se payer effectivement des appartements à ce prix-là. Vous prenez le sommet de la tour dite Odéon, qui est la fameuse tour qui a provoqué un scandale à l'époque là-bas à Monaco. On atteint des sommes inouïes pour un truc qui est invivable en vérité. Personne n'a envie de s'installer, même dans un 200 ou 300 ou 400 ou 1600 mètres carrés. Le plus cher du monde est là, 1600 mètres carrés au sommet de la tour. Personne n'a envie de payer ce prix-là.
Et excepté. On ne vient là que pour ne pas payer d'impôts.
Uniquement. Dans ces conditions, pour ces acheteurs-là, oui. Ce qui veut dire que si je suis par exemple un richissime russe et qu'on me propose un terrain à 20 millions d'euros avec une villa de rêve à côté et un parc de 10 hectares, et même avec une garde privée, j'irai pas parce que je paierai des impôts. Tandis que si je vais à Monaco, je préfère habiter dans une tour pas terrible, totalement isolée, avec rien autour, sans jardin, sans rien,
sécurisé.
Mais je paierai pas d'impôts.
Sécurisé.
Ouais. Archi-sécurisé. Comme je disais, la principauté est effectivement, sur son point fort, l'état le plus sécuritaire du monde, quasiment.
Bien, ben merci pour toutes ces explications. On y voit un peu plus clair, Pierre Abramovici. Puis j'en profite pour rappeler, pour ceux que ça pourrait intéresser de poursuivre notre discussion, que vous êtes par ailleurs l'auteur de Monaco sous l'occupation. C'est pas la même période, mais c'est intéressant aussi, qui est paru aux éditions Nouveau Monde. C'est la fin de Secret d'Info. Merci à Martin Broyer pour sa précieuse collaboration. Merci à Christophe Imbert qui réalisait cette émission. Merci à Elisabeth Collet et Julien Chabassu qui étaient à la technique aujourd'hui. Puis merci à Jean-Baptiste Audibert qui assurait notre programmation musicale. Dans quelques instants, c'est Au de mon amour, avec notamment le témoignage de Claude Grison, une scientifique qui plaide pour une chimie inspirée du biologique. La cellule investigation de Radio France, elle vous donne rendez-vous samedi prochain. Et quant à moi, eh bien, je vous souhaite un excellent week-end.